Merci, pasteur. Merci pour l'église d'Argenteuil de m'avoir invité. J'ai déjà fait connaissance avec certains membres de votre église. Anne-Evelyne, tu joues très bien le piano. Je ne sais pas si elle est toujours là. Merci au groupe de jeunes qui ont chanté vraiment un chant qui a rapport avec ce que nous allons partager. Oui, la persécution fait partie de la vie du chrétien. C'est vrai qu'en France, on n'est pas encore concerné, mais qui sait. La persécution est une réalité, mes frères et sœurs. Avant de commencer, je voudrais remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, je veux bénir et louer ton Saint-Nom, te dire que si nous sommes là, c'est une grâce que tu as fait à chacun de nous. Nous ne sommes pas là parce que nous sommes chrétiens ou nous sommes religieux ou nous avons une habitude, mais nous sommes là parce qu'un jour tu as donné ta vie pour nous. Tu as été toi-même persécuté le premier avant nous. Tu es le premier-né. Seigneur, si on a fait ça pour toi, comment ne feront-ils pas ça pour nous? Seigneur, aujourd'hui, accorde-nous juste du courage, de la force et accompagne-nous partout. Nous avons besoin de toi, mais nous voulons te dire oui, parce que tu nous envoies. Amen. Je voudrais vous laisser à l'esprit ces deux versets qui sont, je dirais, très importants pour le chrétien. Et avant ça, je me présente. Donc, je m'appelle Karim, je suis d'origine algérienne, ancien musulman. J'ai connu le Seigneur en Algérie à l'âge de 17 ans. Et j'ai cherché Dieu et il m'a trouvé. Vous savez, c'est vrai que Dieu attend toujours que nous fassions le premier pas et lui fait le reste. J'étais jeune, je me posais plein de questions, je me disais mais qu'est-ce qui se passe après ce monde, après la mort, et qu'y a-t-il dans le ciel? Même quand on regarde là-haut, on nous parle d'étoiles, on nous parle de la lune, de galaxies, de toutes ces choses-là. On ne voit pas à l'œil nu certaines planètes, mais on voit, on sait qu'il y a des étoiles la nuit, il y a la lune, on la voit. Mais qu'y a-t-il au-delà? C'est vrai que quand on n'a pas le cœur rempli par le Seigneur, on se pose plein de questions. Et je me disais, tiens, j'entends parler de l'astronomie, je vais essayer de m'y mettre, de voir, pour comprendre ce qui se passe dans le cosmos, dans toutes ces choses-là. J'ai lu un livre, c'était le premier livre que j'ai lu dans ma vie, et c'est là que j'ai su qu'il y a d'autres galaxies, il y a d'autres planètes, il y a d'autres... vraiment, c'était immense et infini tout ce que Dieu a fait, et ça m'a poussé à vraiment aider à comprendre qu'il y a une autre vie dans l'au-delà. Il y a quelque chose, mais on ne nous parlait pas beaucoup, parce que dans l'islam, il y a Dieu, il est très loin, il y a l'enfer, il y a le paradis, et tous vont aller en enfer, même s'il y a le paradis à côté. C'est ce qu'on nous enseignait dans la religion. Même si on est le meilleur des pratiquants, le meilleur des hommes pieux sur terre, mais on doit quand même passer par le feu, on doit souffrir. C'est ça la religion. Vous savez, parce qu'on meurt avec notre péché dans la religion. Mais en Jésus-Christ, c'est le contraire. Le Seigneur est mort pour nous le premier. Il a été persécuté à notre place le premier. Et... la persécution est une réalité, comme je l'ai dit, mais la vérité en Jésus-Christ, c'est vraiment ce que Dieu nous demande de vivre. Parce que Jésus n'a pas dit « j'ai la vérité ». Vous êtes d'accord? Il n'a pas dit « j'ai la vérité ». Il a dit, je suis la vérité. Et aucune religion, aucun prophète dans ce monde aujourd'hui ne peut dire, je suis la vérité. Ils disent, nous avons la vérité, nous avons le chemin, ainsi de suite. On entend même dire, je suis la belle religion. Les musulmans vont vous dire, nous avons la meilleure des religions. Ils ont raison. Ils ont une belle religion, avec un grand R. Mais Jésus n'est pas une religion. Nous n'avons pas une religion. Au fait, on développera tout ça dans l'après-midi. Quand on parle à un musulman, la première chose à casser, à briser d'avance, c'est faire comprendre que nous ne représentons pas une religion. Nous parlons d'une relation nouvelle avec un Dieu vivant. C'est de ça que nous voulons parler. C'est ça l'évangile. Et le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, le monde ne l'a pas, il l'attend. Il nous attend en quelque sorte, c'est ça que je veux dire. Donc, et puis un jour je rencontre un chrétien, un ami devenu chrétien, un musulman comme moi devenu chrétien. J'ai été choqué de le voir. Je lui dis, mais t'as pas honte? Tu as changé ta religion, tu n'as pas le droit. Vous savez, l'islam condamne tout musulman qui changerait sa religion. Il mériterait la mort, c'est comme ça. Et j'ai dit, mais je le voyais bizarre, traître, je ne pouvais plus lui faire confiance. Il a trahi Allah et il ne va pas me trahir moi, donc il ne peut plus être mon ami. Puis il a essayé de m'expliquer, me dire « Non, c'est pas ça, j'ai juste découvert la vérité en Jésus, le chemin et Dieu. » Il me parlait des choses, il me parlait de la Bible, je comprenais rien. J'ai dit « Non, non, tout ça c'est pas pour moi. Je suis né musulman et je resterai comme ça toute ma vie. » On n'a pas le droit de changer de religion dans l'islam. Impossible. Et... Il me dit, voilà, je t'invite dans notre réunion de prière, si tu veux venir, pas de problème. J'ai dit, mais je suis curieux de venir voir comment vous priez, mais pas plus. Parce que je ne veux pas devenir chrétien comme vous. Je ne veux pas être malade, être contaminé par votre religion. Et il m'a dit, non, non, tu es libre, tu peux juste venir assister en tant qu'invité et tout ça. Moi, je m'attendais à une église, à un bâtiment, à une grande croix à l'extérieur, un clocher. Vous savez, étant musulman, on pense toujours ça. Et à l'intérieur, un prêtre bien habillé, puis des statues à côté, ainsi de suite. Et j'ai dit, mais il n'y a pas d'église dans ce pays, il n'y a que des mosquées. Comment, chrétiens, comment vous priez? Il me dit, tu verras, tu me suis et ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. C'était la nuit, déjà c'est bizarre. Les gens vont à la messe, à l'église, même dans d'autres religions, ils vont célébrer leur culte le jour, à 10h, à midi, mais pas la nuit. Bon, on est allés tous les deux, on a quitté la ville et puis... On est arrivé dans un endroit, il me dit, c'est ici que ça se passe. Je dis, mais il n'y a rien. On est dans un endroit isolé. Il me dit, tu vois le mur là-bas, c'est derrière. Bon, c'est juste un mur comme ça. Je ne connaissais pas cet endroit de la ville. Et puis, il me dit, voilà, je monte, je passe de l'autre côté et tu fais pareil. Simplement, avant de monter, d'escalader le mur, tu regardes derrière toi, devant, s'il n'y a personne qui te voit. Ça commence déjà à... Oui. Et là, bon, il est passé le premier et je monte. Qu'est-ce que je découvre? Un cimetière. Et un cimetière, la nuit, et pour être en compagnie des chrétiens. Pour moi, c'était la totale. C'était pas facile. Vous savez, dans l'islam, il y a beaucoup de superstitions et on a peur de la mort à chaque moment, à chaque instant. Quand on passe devant un cimetière le jour, et on doit réciter des versets coraniques pour notre protection. Donc, et là, je me retrouvais dedans, la nuit, et pour assister à une réunion de prière de chrétiens. J'ai eu très peur, je tremblais, tout ça. Et par contre, ce qui m'a frappé, c'est le petit groupe de jeunes qui étaient déjà là. Ils étaient une dizaine et tous d'arrière-plan musulman. Tous ont découvert Jésus-Christ, pas comme le décrit la religion, comme étant un grand prophète, un ange qui est descendu sur terre, non, mais comme étant un Seigneur et un Sauveur. On va dire le plus ancien parmi ces jeunes convertis avait 6 mois de conversion. C'était le début du réveil, les années 80, du réveil chrétien en Algérie. Et là, je voyais une grande différence entre moi et eux. Moi, je tremblais de peur et eux, ils étaient paisibles, souriants et leur visage rayonnant, même si c'était la nuit. Et puis, ils m'ont demandé de prendre place et de m'asseoir sur une tombe. Vous savez, dans un cimetière, il n'y a pas de chaise, il n'y a rien. Hein. Et là, j'ai fait comme eux. J'ai pris place et j'ai compris une chose, c'est que moi, j'avais une religion et cette religion ne m'a pas apaisé. Elle ne m'a rien apporté à ce moment-là, même avant. Et eux, ils avaient un Dieu. Donc c'est là que je devais faire la différence entre religion et un Dieu vivant. J'ai pris place et ils m'ont bien accueilli. Ça, c'est très important aussi, l'accueil, accueillir. Pas que dans l'église, mais même à l'extérieur. Quand on reçoit quelqu'un, un musulman surtout, parce que lui, quand il va vous recevoir chez lui, il va bien vous accueillir. Attention, ils ont cette culture d'hospitalité. Et nous devons aussi la voir, la mettre en pratique et montrer, même si on est différent, on aime tout le monde, y compris nos ennemis. Vous savez, les musulmans persécutent les chrétiens à travers le monde, n'aiment pas le chrétien. Les musulmans prient même Dieu contre les chrétiens. Vous savez, il n'y a pas beaucoup qui vont vous le dire. Hein, les musulmans ne vous diront jamais ça. Ils se réunissent pour prier contre les chrétiens. Vous savez quel genre de prière ils font ? Dieu, dans l'heure des tremblements de terre, extermine leurs enfants, dans l'heure des maladies comme la peste, comme je ne sais pas quoi, mais ça existe, mais vous n'allez pas l'entendre, vous n'allez pas le lire dans la presse, dans les journaux. Non, les musulmans eux-mêmes ne vont pas vous dévoiler leurs secrets, c'est impossible. Donc, on ne vous dit pas tout. On vous parle d'une religion de paix, d'une religion pacifique, qui... Ce matin, j'ai entendu quelqu'un qui disait... religion d'amour, même. Vous pouvez entendre toutes ces choses-là. C'est beau à entendre. Mais dans la pratique, ce qui est l'essence même, le cœur de cette religion, c'est ça qu'il faut savoir. Et beaucoup, les musulmans eux-mêmes, ne connaissent pas le Coran, ne connaissent pas leur propre religion. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le responsable du groupe a dit, voilà, nous prions, nous allons prier. Et je les vois tous baisser la tête et fermer les yeux dans un cimetière la nuit. Voilà. Et là, moi je les ai ouverts encore plus. Je ne suis pas chrétien, je ne vais pas prier comme eux et... J'avais déjà peur de me retrouver là, et là je devrais me fermer les yeux. Non, j'ai dit non, je ne suis pas obligé. J'ai ouvert les yeux, on ne sait jamais. Je regardais derrière s'il n'y a pas une main qui sort comme ça pour... on regarde beaucoup les films, on regarde la télévision, donc on s'imagine des fois des choses. Et c'est là, au fait, que le Seigneur m'a parlé. Et c'est là que... quand un de ces jeunes a juste appelé Dieu son Père. J'ai senti dans mon cœur que Dieu peut être aussi un Père pour moi. Ça, c'était la première parole, Dieu Père. La deuxième, c'était quand il a remercié Dieu pour son amour. Et pareil, j'ai senti la même chose, que Dieu m'aime. Et c'est beau d'avoir un Dieu Père et un Père qui aime. Je disais, c'était un combat de sentiments au-dedans de moi, un combat d'idées comme ça dans ma tête, mais j'étais tellement touché. Et toutes les questions, vous savez, tout musulman a des questions pour le chrétien, par rapport à la Bible, par rapport à la foi chrétienne, par rapport au christianisme en général. Et toutes ces questions-là ont disparu d'un seul coup. J'avais aucune question, aucune ombre de doute en moi concernant Jésus-Christ. J'avais compris que il est le chemin, la vérité et la vie. Instantanément, le miracle s'était produit dans mon cœur. Je n'ai rien fait, je n'ai pas tout compris de moi-même, mais c'était la révélation du Seigneur. Ils ont lu la Bible, ils ont chanté des chants, c'était beau, j'ai aimé. Et à la fin du culte, je n'ai rien dit de ce qui s'est passé en moi. Je leur ai juste posé la question, est-ce que je peux revenir la prochaine réunion? La peur du cimetière a disparu, la peur de la mort a disparu. Et ils m'ont dit, tu connais notre église, les portes sont ouvertes, tu viens quand tu veux. Ils veulent dire, le cimetière est là. Vous allez me dire maintenant pourquoi ils faisaient des réunions dans le cimetière? Une bonne question. Ça n'a rien à voir de superstitieux ou ça n'a rien à voir de... Tout simplement, c'est qu'ils n'ont pas de local. Déjà, il n'y a pas d'église. Et c'était interdit. Tout rassemblement était interdit à l'extérieur, comme ça. Et ils ont trouvé l'idée de se réunir dans un cimetière parce que personne ne va les trouver là-bas. Et c'est un lieu très secret. Personne ne part dans un cimetière la nuit. Tu vas faire quoi dans un cimetière la nuit ? Peut-être le jour, on pourrait te voir, quelqu'un passe, il pourrait t'entendre chanter, mais la nuit, personne ne passe devant un cimetière ou même aller dedans. Non, ils sont tranquilles dans leur petit endroit secret pour adorer Dieu. C'est donc dans un lieu où règne la mort que j'ai adressé ma première prière à un Dieu vivant. C'est dans ce cimetière. Et ils m'ont pas dit une chose, ça il faut le dire, si vous gagnez un musulman à Christ, vous devez lui dire, le prévenir sur d'éventuels problèmes dans la famille, avec des amis, ça c'est, c'est quelque chose de courant. J'arrive chez moi et puis j'étais tout content, j'avais la joie du Seigneur, j'ai trouvé la vie, j'ai trouvé le chemin, tout ce qu'on veut. Et avec ma Bible comme ça, je ne l'ai même pas cachée. Et mon père qui me dit, « Ah, tu lis la Bible ?» Il ne savait pas que je me suis converti. J'ai dit, « Oui, viens. » J'ai reçu mes premiers coups sur le visage. Et puis, tu es la honte de la famille, tu nous discrédites, tout le village maintenant va parler de nous du mal. C'est pas bien ce que tu as fait. Ma mère qui me disait, mais si tu étais dans la drogue, dans l'alcool, dans autre chose, c'est pas grave, mais tu oses lire la Bible. Vous voyez comment on pense de nous et de la Bible en général. C'est bon, les coups étaient durs. Quand j'ai rappelé ça à mon père il y a quelques mois, je lui ai dit, mais tu te rappelles, un jour tu m'as vu avec la Bible et puis tu m'as battu et tout ça. Il me dit, moi j'ai fait ça. Parce que maintenant, il accepte que je sois chrétien. Et parce qu'il a vu le résultat, il a vu le fruit, le changement. Et il me dit, moi, je ne crois plus à toutes ces religions. Bon, il en est arrivé là. Je lui ai dit, ben, c'est bien, mais cherche Dieu. Vas-y. Il me dit, oui, ça m'arrive même de prier tout seul. J'ai dit, continue. Tu demandes à Dieu et un jour, il peut se révéler à toi. Je lui ai promis, je lui ai dit, un jour tu viendras avec moi à l'église. Il m'a dit, oui, on verra. C'est-à-dire, il ne s'opposait plus comme avant. Et quand ma sœur s'est convertie, c'était la catastrophe, parce qu'elle, c'est une fille, et moi, c'est un homme. Vous voyez la différence? Et pendant 3 ans, mise à l'écart, elle ne travaillait pas, elle ne sortait pas de la maison. Il ne touchait pas à ce qu'elle fait, ni à sa nourriture, ni à rien du tout. Et ce n'était pas facile pour une jeune fille, hein. Et dans sa tête, à mon père, c'était « Mais qui va me l'épouser maintenant ?» C'était la première chrétienne du village. Et il me dit « Mais tout le village sait qu'elle est chrétienne, qui va me l'épouser, qui va venir la demander en mariage ?» Personne. J'ai dit « Oui, effectivement, mais Dieu peut tout faire. » Et le jour où un chrétien est venu la demander en mariage, il lui dit « Mais vite, vite, prends-la sans réfléchir. Allez, 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 je te la donne, je te l'offre. C'est bon. » Et juste par rapport à la persécution, c'était le début du christianisme. Le christianisme existait déjà, hein, bien avant, les premiers siècles. Quand on parle des pères de l'Église, quand on parle de Saint-Augustin, Tertullien, Cyprien, c'était des gens d'Afrique du Nord, hein. L'Église a existé en Afrique du Nord. Et l'Afrique du Nord, quand je dis Afrique du Nord, c'est Algérie, Maroc, Tunisie, la Libye. Et a donné beaucoup de martyrs. Beaucoup sont morts à cause de leur foi. Ont été tués, massacrés, des femmes, des hommes, même des enfants, en nom d'Allah. Quand l'islam est venu pour s'imposer à l'Afrique du Nord par l'épée, attention. Donc, toute trace de christianisme en Afrique du Nord a été anéantie. C'est comme s'il n'y avait plus rien. L'islam a toujours été la religion de cette partie du monde et c'est tout. Vous savez, aujourd'hui, c'est la renaissance de l'Église. On ne peut pas tuer l'Église. Le pays où la croissance de l'Église, où on va dire le pourcentage de conversion est grand, c'est la Chine dans le monde aujourd'hui. Et le deuxième pays, c'est l'Algérie. Attention, beaucoup ne le savent pas. Le Seigneur m'a fait grâce, j'ai parlé comme ça dans une église en Algérie, il y a l'année dernière, il y avait 1 500 personnes en face de moi. Ma première église était dans un cimetière et avec une dizaine de jeunes fraîchement convertis. Et là, je me retrouvais avec, en face de moi, 1 500 personnes, tous d'origine musulmane, de tout âge. Le Seigneur a fait des miracles. Il y a des personnes qui viennent à l'église pour la première fois. Comment tu as entendu parler de Jésus? Eh bien, ce soir, j'ai dormi et quelqu'un est venu dans un rêve, il m'a dit, voilà, demain tu vas dans tel endroit, tu trouves des personnes qui se réunissent et qui chantent mon nom, qui louent mon nom, et bien tu vas te réunir avec eux. Et puis, il vient, il raconte son témoignage comme ça. Vous allez comprendre quoi? Le Seigneur travaille. Parce que vous avez prié, parce que vous avez fait, parce que vous avez investi dans le royaume de Dieu. Vous avez prié pour le monde musulman. Vous savez, je connais quelqu'un qui prie, il a à cœur le monde musulman. Sa manière de faire, c'est chaque matin, il prend un prénom musulman. Ce matin, il va prier pour Fatima. Demain, il priera pour Mohamed. Le lendemain, il prend comme ça, pour que tous ceux qui s'appellent Mohamed soient touchés aujourd'hui. C'est sa manière de faire. Chacun, comment il peut s'investir. Si le Seigneur vous appelle à l'intercession, à la prière, vous pouvez continuer à prier. Si le Seigneur vous appelle à soutenir une œuvre, une mission, par la prière, faites-le. À soutenir financièrement, faites-le. Agissez selon ce que Dieu met dans votre cœur. Mais sachez, même si on ne voit pas avec les yeux, il y a des choses qui se passent. Le Seigneur agit. Vous savez, en Arabie Saoudite, en Iran, et dans certains pays dans lesquels nous sommes aussi présents, parce que notre mission, je vais parler un petit peu de notre mission qui s'appelle Agapé, on a donné le nom Life Agapé, c'est-à-dire vivre l'amour parfait. C'est ça que ça veut dire, hein, vivre l'amour parfait. Parce qu'agapé, c'est un mot en grec qui veut dire l'amour saint, l'amour parfait, l'amour que Dieu a manifesté pour les hommes. Et c'est ça que nous voulons vivre. Pourquoi nous l'avons appelé comme ça? Parce que Le Seigneur, quand on est venu le voir, on lui a dit, quel est le plus grand commandement? Qu'est-ce que le Seigneur a répondu? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout, hein, ton être. Et, attention, ça continue, hein. Donc, ça ne suffit pas de dire « j'aime Dieu, je lis la Bible, je prie, je pars à l'église, je fais les choses très bien. » Et si je n'aime pas mon prochain, il y a un problème. Et si, vous savez, il y a quelques semaines, une femme est venue me dire dans une église « je ne peux pas prier pour les musulmans. » Ah non, elle a commencé par me dire « je ne peux pas évangéliser un musulman. » Bon. Ça, à la rigueur, je l'ai compris. Elle n'a pas le courage, elle ne fait pas ça, mais peut-être qu'elle fait autre chose. Et puis, elle continue, elle me dit, je ne peux même pas prier pour eux. Ah, j'ai dit, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Elle me dit, mais vous savez comment ils sont, vous voyez, ils sont très... Oui, pensez-vous qu'on a été meilleurs devant le Seigneur? Peut-être qu'on n'est pas violent, on ne fait pas ce qu'ils font... Mais tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, dit la Bible. Donc il y a des fois des choses qui nous dépassent comme ça, et beaucoup de chrétiens sont venus me dire « Oui, mon frère, comprenez-nous, on a de la haine dans notre cœur. » Comme ça, par rapport. Mais entendre ça dans l'église de Jésus-Christ, de la bouche de chrétiens, je comprends, hein, ce que les médias sont en train de faire, tout ce qu'on voit à la télé, tout ce qu'on lit dans les journaux, c'est la réalité, c'est normal. Quand on nous rapporte des faits, voilà, là-bas il y a eu ceci, là-bas il y a eu cela, et puis on est choqué de voir tout ça, ça se comprend. Mais sachant que le Seigneur nous appelle à autre chose, à aimer nos ennemis. Aime ton ennemi. Vous savez, quand on a cloué Jésus à la croix, il n'a pas dit « Seigneur, Père, pardonne-leur. » Point. Il a même trouvé une excuse. « Oh, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il aurait pu dire « Seigneur, pardonne-leur. Ils m'ont tué, ils m'ont fait du mal, ils m'ont persécuté. Ils ont... » Parce qu'ils sont pécheurs, ils sont mauvais. Ou « dans l'heure du feu. » Non. Il a dit, mais Seigneur, s'il te plaît, vois-les comme des innocents, comme des ignorants. Ils ignorent ce qu'ils ont fait. Il a trouvé une excuse pour que notre péché soit effacé. Et il savait aussi, parce qu'il est venu pour ça, plusieurs fois il a annoncé sa mort et sa résurrection. Tout simplement parce que l'homme pécheur doit être sauvé. L'amour de Dieu a voulu ainsi, parce que Dieu est amour. Il faut que l'homme pécheur que Dieu aime soit sauvé. Dieu voulait partager avec nous ce qu'il a. Vous savez, Dieu peut faire ça et le monde est converti. On le sait. Dieu, rien n'est impossible à lui. Mais il ne veut pas faire ainsi. Il veut le faire par nous et avec nous. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Aujourd'hui, beaucoup disent, quand on se lève le dimanche matin, par exemple, dans les métros, dans les rues de Paris, on trouve des gens en train de courir et la Bible dans la main. Il n'y a que les chrétiens qui sortent de chez eux le matin à 8h, à 9h du matin. Dans le métro, vous pouvez dire « bonjour mon frère, bonjour ma soeur » dans le métro, sans problème. La majorité qui prennent les transports, ce sont des chrétiens. Ils vont tous à l'église. Les autres, bon, ils dorment, ils prennent leur journée de repos et voilà. Mais est-ce qu'on se dit dans notre tête, on va à l'église, église bâtiment, église baptiste, église évangélique, protestante, on a plein de... Qu'est-ce qu'on a dans notre tête et dans notre cœur? Est-ce qu'on va à l'église ou bien est-ce qu'on va faire l'église? Vous savez, Jésus a dit, là où deux ou trois se rassemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Bon, c'est vrai qu'il y a un langage qui s'est installé en nous. Allez, on va à l'église. Et dans notre tête, l'église, oui, c'est un endroit où on se retrouve. C'est vrai. Mais en disant on va faire l'église, on va vivre l'église. Vous savez, il y a des pays où il n'y a pas de locaux. En Arabie Saoudite, ils se réunissent dans des grottes. Ils ne disent pas on va à l'église. Ils disent allons faire l'église. Parce que là où deux ou trois se rassemblent en mon nom, ils vivent l'église. C'est ça l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ, c'est le corps, c'est l'unité. Vous voyez, parce que Dieu est unité qui se manifeste en trois personnes. Notre frère, ce matin, c'est vous, a bien traité cet aspect pluriel de Dieu. Et c'est une réalité, c'est une vérité qu'il faut accepter. Nous sommes pluriels, l'être humain est pluriel. Vous savez, quand c'est dit Dieu créa l'homme, c'est pas, il n'a pas créé un seul homme. Regardons, nous ici, là, nous sommes plusieurs. Et il l'a créé à l'image de Dieu, c'est vrai ou pas? D'accord, mais ça veut dire on est tous pareils. Et pourtant, quand on se voit, on est très différent. C'est-à-dire, l'homme est pluriel. Même on est constitué de corps, d'âme et d'esprit. Nous sommes déjà pluriels. Et quand on se voit, nous sommes pluriels, nous sommes plusieurs, nous sommes beaucoup. Vous savez, le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, Elohim, et à chaque fois qu'on voit dans un mot ou un nom le « im » à la fin, ça veut dire pluriel, c'est comme le « es » en français. Elohim, ça veut dire les dieux. Nous faisons l'homme à notre image. C'est comme ça. Simplement, après, quand on rapporte des choses d'une langue à l'autre, bon, les choses peuvent changer, comme le mot « amour » dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans le grec, il y a trois mots pour dire le mot « amour ». Nous, dans notre Bible, partout où il est question d'amour, on met « amour », point. Alors qu'il y a trois types d'amour. L'amour saint, l'amour agapé, qui est l'amour de Dieu pour nous. Et il y a l'amour philéo, qui est un amour filial entre un père, un fils, entre humains, un frère et une sœur qui s'aiment, c'est normal. Et il y a Eros, c'est l'amour physique. L'amour physique, ce qui peut se passer entre l'homme et sa femme. Voilà. Donc, tout ça, c'est des mots différents. Mais si on rapporte ça au français ou à une autre langue, on utiliserait le seul mot. Le même mot est utilisé pour les trois sens. Donc, c'est important d'étudier toutes ces choses-là pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre. Il y a un verset que beaucoup de chrétiens connaissent et ils ont même appris par cœur. Ce verset, c'est le... Bravo. Mais il y a un autre verset, c'est pas de celui-là que je veux parler. Celui-là, on le connaît, donc c'est pas la peine d'en parler, c'est vrai ou pas? On enlève même des fois notre... pour mettre notre prénom, hein, Dieu a tant aimé le monde, on met Dieu a tant aimé moi, qu'il a donné son Fils unique pour que... On aime, hein, c'est bien. Dieu nous a sauvés, il a tout fait pour nous. C'est parfait. Mais il y a un autre verset qui, je dirais, contrebalance un peu ce verset et qui est une suite logique pour ce verset-là. Parce que j'ai reçu pour moi le salut. Est-ce que j'ai le droit de le garder pour moi? Est-ce que je suis content, je suis dans la joie, je loue le Seigneur, je vais à l'église, je suis bien avec mes frères et sœurs? Il fait pas froid, on a du chauffage, on a de belles chaises, tranquille, dans notre petit confort. Et ainsi de suite, chaque dimanche et chaque mois et chaque année, c'est comme ça. C'est beau tout ça. Mais moi, je pense que le chrétien ou le disciple de Christ ne doit pas se contenter de ça et ne doit pas rester dans ce verset qui est le Jean 3,16. Il ne faut pas nous enfermer dans ça. Alors ce verset que je veux vous partager, c'est celui qui est dans Matthieu 28, chapitre, Matthieu chapitre 28, verset 19. Est-ce que quelqu'un l'a appris par cœur? Je suis sûr que non. Si? Vas-y. Parfait, bravo. Alors, vous voyez la différence quand on compare entre ce verset-là et le Jean 3,16? Beaucoup de chrétiens ne l'ont pas appris par cœur, ce verset-là. Et pourtant, ce verset dit « Allez ». Et ce qui est encore plus important, il n'a pas dit de faire des chrétiens. Il a dit de faire des disciples. C'est très important. C'est très important. Je voudrais me concentrer sur le mot « aller ». Est-ce qu'il est dit « aller » si vous avez le temps ? Est-ce qu'il est dit « aller s'il vous plaît » ? Est-ce qu'il est dit « aller » si vous avez reçu un appel particulier à être évangéliste ou à être un ministère quelconque? Non. Et en plus, c'est un ordre. C'est vraiment un ordre. Et c'est un ordre qui s'adresse à tous les chrétiens, de tout âge. Pas de problème. Maintenant, quand c'est dit « aller », c'est vrai, on ne va pas prendre un sac et puis prendre l'avion et aller changer de pays. Ça ne veut pas dire ça. C'est possible que Dieu vous envoie dans un autre pays étranger. Ça a déjà arrivé. Charles Marsh, qui a évangélisé en Algérie, c'est un missionnaire anglais qui est parti en Algérie les années 50. Et il a réussi à gagner au Seigneur une dizaine de personnes qui ont été empoisonnées par la suite. C'était pas facile, mais ces gens-là ont semé, et un jour ça a donné, ça a poussé, ça a donné du fruit. Vous savez, Charles Marsh, il a vécu sur place, il allait de village en village à pied pour distribuer, donner des évangiles. Il a appris la langue et sa famille aussi était là-bas, donc il avait une fille qui s'appelait Daisy Marsh. Elle a pris un prénom local. Elle a vécu pas loin de mon village. Et un jour, je correspondais avec elle. C'était une femme qui a repris le travail de son père. Et c'était une femme qui a commencé à faire des émissions radio en Kabyle. Une Anglaise qui a appris la langue locale et qui parlait même mieux que ma mère. Et elle avait un quart d'heure par semaine. Et je me rappelle, les gens l'attendaient. C'était chaque jeudi soir. Ils l'attendaient pour entendre cette Anglaise qui leur parle dans leur langue maternelle. Elle leur parle de qui? Pas de sport, pas de nouvelles de ce monde, mais elle leur parle d'un Dieu vivant, d'un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Parce qu'ils connaissent Dieu dans la religion musulmane, mais ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Et là, cette femme qui s'est identifiée à eux, elle a appris leur langue, elle s'habillait comme eux. Et vraiment, et ça a touché beaucoup de personnes. Mais je ne vous dis pas le nombre qui se sont convertis par ce petit quart d'heure. Mais si ces gens-là n'ont pas tout laissé, leur confort, ils sont allés là-bas, avec tous les risques qu'il y avait. Vous savez, les années 50, la France était encore occupée encore l'Algérie, et c'était le début de la guerre. C'était pas facile. Il y avait des risques partout, mais ces gens-là ont semé et on a récolté par la suite. Un jour, quelqu'un écoutait cette émission de cette dame qui parlait dans sa langue et avec un accent un peu anglais, mais il comprenait tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle disait, et elle parlait ce jour-là de la parabole du semeur. Et cet homme, Abdenour, que le pasteur connaît, cet homme a été touché par cette parabole. Et il s'est dit, mais cette personne qui a semé, j'ai envie de le connaître. Ce Jésus qui est le semeur, je veux le connaître. Il leur a écrit, ils lui ont répondu, ils lui ont envoyé une Bible. Il a été mis en contact avec d'autres chrétiens, il s'est converti. Et un jour, c'est lui qui a remplacé cette femme, Daisy Marsh, parce qu'elle est un certain âge, elle a pris sa retraite et tout ça. C'est lui qui a occupé sa place. Et le quart d'heure est devenu demi-heure, et plus hebdomadaire, mais journalier. C'était devenu tous les soirs. Une émission tous les soirs. Et je ne vous dis pas combien de personnes encore sont venues à Christ par le biais de cette émission-là. Un jour, on annonce la mort de ce frère aussi. Il est décédé il n'y a pas longtemps. Et le Seigneur m'a fait grâce de reprendre ce travail et de le continuer aujourd'hui. C'est juste pour vous dire comment le Seigneur travaille, comment le Seigneur fait les choses. Et c'est vrai qu'il y a eu un réveil en Algérie, vous allez le voir. Et c'est vrai qu'il y a, l'Église est une réalité, on ne peut pas la nier. La preuve, c'est que le gouvernement a donné des autorisations aux églises pour exister, pour fonctionner et célébrer le culte librement. Donc les églises se sont constituées en association nationale, l'équivalent de la Fédération protestante de France, qui est agrémentée par la loi. Ils ont l'agrément. Donc toutes les églises qui sont affiliées à la Fédération protestante sont en quelque sorte réglo. Elles fonctionnent. Elles font le culte. Et je vous ai dit, les églises ne cessaient de grandir. Les locaux devenaient trop petits. Il fallait pousser les murs. Il y a des églises où on a cassé des murs pour faire des extensions et des sous-sols avec des grands écrans pour que d'autres suivent. Après, on n'a plus de place, c'est bon. Et le gouvernement... C'était en 2006, c'est là que les choses, que la persécution a commencé, c'était pas nouveau, hein, et a fait un nouveau décret, une nouvelle loi pour dire maintenant, c'est vrai qu'il y a des chrétiens chez nous, maintenant il faut gérer ce fléau, ce phénomène nouveau, parce que pour eux c'était nouveau, il n'y avait que l'islam avant, c'était facile. Les imams sont des fonctionnaires, ils sont payés par l'État, ils ont un logement de fonction. Et les mosquées sont construites même par l'État, il n'y a pas de problème. Et maintenant, si on reconnaît l'Église, donc il faut aussi qu'on soit logique. Si on prend en charge les imams et les mosquées, on doit aussi prendre en charge les églises. Mais la religion nous interdit ça, l'islam leur interdit ça, c'est pas possible. Ils étaient vraiment dans un dilemme. Donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? C'est canaliser, c'est maîtriser, c'est mettre un cadre pour que l'Église ne s'agrandissait pas plus. Donc, il faut freiner ce phénomène d'évangélisation et de réveil chrétien dans un pays musulman. C'était ça. Et quiconque, un chrétien qui donnerait un évangile à un musulman, si le musulman dépose plainte, c'est 3 ans de prison. Donc ils ont fait des lois comme ça. Il y a une société biblique qui existe, qui a un agrément et tout ça. Elle a fait une demande d'importation de Bible. Non, c'est interdit. Pourquoi? Parce que notre religion ne nous permet pas d'accepter une telle demande. Mais c'est comme ça. Et pourtant, la loi, il n'y a rien qui l'interdit. La loi algérienne dans la Constitution, elle garantit la liberté de culte, la liberté de conscience. La liberté de même changer de religion, c'est pas interdit. Sauf, ça c'est la loi du pays. Mais la loi islamique l'interdit. Donc ils sont plus en train de voir le côté religieux que le côté légal. Et ça c'est injuste envers l'Église aujourd'hui. Donc il y a quelques semaines de cela, la persécution a commencé. Il y a eu des chrétiens en prison. Il y a eu une femme, par exemple, ils ont trouvé dans son sac 3 évangiles. Une fouille comme ça de police, 3 évangiles, ils lui ont dit, madame, vous faites de l'évangélisation. Voilà, suivez-nous, commissariat, passez en justice et tout ça. Bon, elle n'a pas fait de la prison parce qu'elle a été bien défendue par des avocats non chrétiens qui sont venus défendre des chrétiens. Aujourd'hui, nous voyons ça. Des femmes voilées sont venues une fois pour dire à ce monsieur qui détenait la société biblique à Alger, ils lui ont dit, on sait que vous avez des problèmes, nous sommes 5 avocates, nous venons défendre, vous défendre. Gratuitement, des musulmans qui témoignent de bonnes choses des chrétiens. C'est beau, et c'est ce que Jésus nous appelle à faire. Nous devons être des témoins. Dans Actes, chapitre 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Vous voyez, soyons témoins partout. Et aujourd'hui, nous avons gagné la confiance des musulmans en Algérie. C'est pour ça que nous n'avons même plus besoin d'évangéliser. On n'évangélise pas déjà, c'est interdit par la loi. Et aussi, on n'a pas besoin d'évangéliser, les gens viennent se faire évangéliser. On a entendu que vous êtes chrétien, ben oui, oui c'est vrai. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ? Ben là, on se met à l'autre. Eh oui, je veux accepter Jésus dans ma vie. Comme ça. Et le Seigneur travaille. Nous ne sommes pas appelés à sortir. Enfin, oui, on peut sortir dans la rue, témoigner, évangéliser. C'est pas ça que je veux dire. Mais repentez-vous, reste vipère. Revenez tous à Jésus, sinon vous allez tous périr. Ben, le Seigneur ne nous appelle pas à tenir ce genre de langage. Vous savez, des fois, sans dire un mot, des gens sont touchés. Je vous dis ça parce que le Seigneur m'a utilisé pour la conversion d'un jeune, un handicapé sur fauteuil roulant. Il m'a appelé pour me dire j'ai des problèmes, un musulman, hein, et il sait que je suis chrétien. Il me dit voilà, j'arrive en France pour des soins avec une organisation, je la trouve fermée, j'ai payé 12 000 euros d'avance et je me retrouve dans la rue, j'ai rien à faire avec fauteuil roulant, je ne peux plus rien faire. Qu'est-ce que tu me conseillerais ? Juste comme ça. Je lui ai dit, écoute, je te donne des numéros d'associations, d'organisations comme ça, essaye d'appeler, de faire des choses. Donc j'ai gardé le contact avec lui. Je ne lui ai jamais parlé de Jésus. Bon. Mais j'ai essayé d'être correct avec lui, de l'aider, de l'orienter, de lui faire du bien. Vous savez, un jour, il m'écrit un message pour me dire « Je veux accepter Jésus dans ma vie ». La tête claire, directe, comme ça. Et moi, ça m'a surpris. J'ai dit « Mais Seigneur, je n'ai jamais parlé de toi à ce jeune homme ». Il me dit « J'ai entendu que tu es chrétien ». Il me dit « Contrairement aux musulmans qui ont voulu m'aider, ils m'ont toujours imposé d'aller à la mosquée, de faire la prière, de faire le ramadan, de faire ceci, de faire cela. Sinon, ils ne m'aideraient pas ». Il me dit « Toi, tu m'as aidé, tu as été avec moi sans rien me demander, sans chercher à m'influencer. » Il a utilisé le mot influence. Il me dit, tu m'as jamais influencé sur ta religion. Parce que pour lui, c'était encore une religion. Il me dit, je veux accepter Jésus dans ma vie. Je lui ai dit, écoute, si vraiment tu es sérieux et que tu as senti dans ton cœur quelque chose. Il me dit, oui, j'ai senti quelque chose dans mon cœur. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as senti dans ton cœur? Il me dit, j'ai senti que, comme si une voix à l'intérieur me disait, appelle Karim et parle-lui de moi. Pose-lui la question. Donc, il m'a appelé, et puis j'ai été le voir. Je l'ai pris à l'église. Je ne voulais pas faire les choses tout seul avec lui. Dans l'église, il a pris le micro, et il a donné sa vie à Jésus. Et là, il est en train d'être préparé pour le baptême. Il fréquente l'église de Mondésir, Léon Mondésir, à l'église de Longjumeau. Mais c'est beau ce que le Seigneur est en train de faire. Donc, sans parler, il est midi 30. J'ai pas vu le temps passer. Bon, en tout cas, sachez que c'est vrai, nous avons beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à dire, parce que le Seigneur travaille. Nous avons encore cet après-midi, si vous pouvez venir, ce serait bien. Il y aura un temps d'échange, un temps de questions-réponses, si vous avez des questions. On fera comme une petite formation comme ça pour dire comment partager l'évangile avec les musulmans. Et si vous avez, vous voulez garder contact, vous pouvez me laisser vos coordonnées. Donc j'ai mis là-bas un carnet pour avoir la lettre de nouvelles et pour avoir des informations sur ce que nous faisons. Et aussi, j'ai cette clé USB où il y a mon témoignage, il y a la formation que nous faisons, il y a plein d'autres témoignages. C'est pas à vendre, j'ai mis une table là-bas, mais il n'y a rien qui est à vendre, ni les livres, ni les CD. Vous pouvez en prendre, mais si vous voulez, si vous pouvez faire un don, ce serait bien. Voilà. Donc, je vous montre cette vidéo sur l'actualité de l'Église en Algérie. Ça, c'est les différentes manifestations pour le soutien donc des chrétiens d'Algérie. Et ça, c'est les chrétiens eux-mêmes en Algérie qui sont sortis dans la rue. Un rassemblement à Paris.
Christ demande d'aimer même ses ennemis. Donc nous n'avons aucune hostilité, même envers le pouvoir algérien. Nous prions pour eux.
C'est un frère qui a connu la persécution bien avant nous. Et je l'ai vu lors d'une conférence serrer un Turc dans ses bras. Je voudrais appeler le pasteur Gilbert Léonian de la communauté arménienne, s'il vous plaît, merci.
Salam alaikum. Ce soir, ma présence parmi vous, c'est d'abord parce que j'aime Jésus, mais parce que j'aime aussi beaucoup Saïd. Le nom de Jésus est tout puissant, mon Père.
Amen.
Ce n'est pas une religion qui nous sauve.
C'est le Christ.
Ce n'est pas un pays qui nous sauve. C'est Jésus.
Le Christ, amen.
Issa. Issa, le prince de la paix.
Jésus.
Dans mon histoire familiale, nous avons connu ce que c'est que la persécution et un génocide. Mais on n'a jamais baissé les bras. Et mes frères et sœurs algériens ne baissaient jamais les bras.
Amen.
Je ne vais pas vous dire que si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous,
c'est comme ça que les chrétiens ont été chassés de l'église. C'est l'église des 1500 membres, celle-ci. Les gendarmes qui rentrent dans l'église. Et les chrétiens qui continuent à chanter. Donc ils ont assisté jusqu'à la fin. Le pasteur qui parle pour dire si un gendarme te touche sur l'épaule, tu sors. Tu résistes pas. Sans violence, sans rien. Respectant les autorités. Et dès que le gendarme touche un chrétien, il sort. En continuant de chanter. Mais il y a une réalité aussi, c'est qu'il y a certaines églises, la gendarmerie, la police, enfermaient que la porte principale. Ils l'ont scellée, ils mettent des scellés. Mais il y a d'autres portes, donc les chrétiens, ils rentrent par la porte de derrière et puis ils continuent le culte jusqu'au jour où on vient.
Le pasteur est également le président de la fédération protestante. C'est clairement une attaque ouverte. On a manifesté le culte dans un pays qui comporte l'inscrit dans sa constitution. Nous le pouvons, en tant que citoyens français, nous devons dans le pays des droits de l'homme, pays amis de la vérité, pays où l'islam peut être pratiqué librement, en vivant de tous les autres cultes, tous les amis. persécution d'hommes et de femmes priant pour soi de lui-même de pratiquer leur foi chrétienne. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je me permets de vous informer et de vous alerter au sujet de ces attaques ouvertes contre la liberté de culte en Algérie et solliciter votre clairvoyance pour intervenir auprès des autorités publiques de la République algérienne démocratique et populaire en faveur de la minorité chrétienne et notamment de sa branche protestante. Au nom des pasteurs, ici et rassemblés, nous voulons croire que la France ne passera pas sous silence de cette persécution. Nous vous remercions.
Les informations en provenance d'Algérie nous préoccupent tous.
C'est les députés européens qui ont traité la question des églises.
Les autorités gèrent les manifestations. Non, je pense à la manière dont les églises sont fermées, dont la liberté de culte est violée.
Sur 50 pays, l'Algérie occupe la 27e place pour les persécutions des chrétiens. Le ministère de l'Intérieur algérien a décidé la fermeture de 15 églises qui ont été déclarées illégales. Les personnes qui venaient se recueillir ont été arrêtées pendant des offices liturgiques. Nous demandons la réouverture de ces églises. Les organisations chrétiennes doivent être reconnues et j'encourage l'Union européenne à exercer une pression sur les autorités algériennes pour qu'elles respectent la liberté religieuse prévue par la Constitution algérienne.
Le fait qu'ils ferment l'église, ils ferment local, déjà c'est une forme de persécution. Il y a beaucoup d'églises qui sont fermées. La société biblique, qui évidemment qui existe officiellement en Algérie, depuis 16 mois, ils n'ont pas eu vraiment l'autorisation d'importer des Bibles. Et même, évidemment, la commission qui donne cette permission, et ils ont dit aux responsables directs de la société publique, ils disent que c'est un péché pour nous de vous laisser importer des Bibles ici en Algérie. En plus de ça, je connais pas mal des amis, notamment des frères et des chrétiens qui ont été licenciés à cause de leur foi. Et aussi, on n'a pas le droit de témoigner à nos voisins ou nos familles, parce qu'il y a une loi. C'est une loi vraiment qui nous a permis de
Je vois que le son ne sort pas bien. Alors lui, il a fait 2 ans de prison parce que on l'a accusé d'insulte à l'islam et au prophète de l'islam. C'est un chrétien.
Un autre m'a dit, voilà. On devrait te découper et faire de toi un saucisson. J'ai été jugé pour insulte envers l'islam, mais sur le procès verbal, sur papier, c'était écrit « Cet individu est un allié d'Israël ». Le juge m'a clairement dit « Si on appliquerait la loi islamique sur toi, on t'aurait déjà lapidé ».
L'article 42 de la Constitution algérienne garantit pourtant la liberté de culte à tous.
Ils attaquent au droit individuel. Ils cherchent à nous intimider. Ils veulent qu'on arrête. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin, qui ont soif d'écouter la parole et de l'entendre.
Mustapha est le pasteur de cette église. Il dénonce la
stigmatisation. Tu peux juste passer un petit peu
en Algérie.
Avancer.
Le simple fait de détenir une Bible est.
Car le temple est-il également occupé?
Encore un peu. Juste, je veux montrer certaines églises sous. Ouais.
Et les situations comme voilà, celle-là sont de plus en plus nombreuses dans le pays. À Béjaïa comme ailleurs, les protestants sont contraints de louer des bâtiments pour pratiquer leur culte. Nous sommes à Akbou.
Donc, une église fermée, Béjaïa, les chrétiens ont acheté des tentes pour se réunir dedans.
Une bâche accolée à l'église, une centaine de fidèles en pleine prière. Le lieu a été fermé en juillet 2018 par ordre administratif. Une fermeture arbitraire dénoncée par l'EPA, l'église protestante algérienne, et qui a poussé dehors ses protestants. Le pasteur, lui, a été convoqué par la justice. Sur la défensive, les fidèles ont préféré ne pas nous parler. Là encore, pasteur et fidèles en ignorent la raison. En attendant, ils en sont réduits, eux aussi, à prier dehors tous les samedis devant leur église. En signe de contestation, et pour conjurer la peur.
Puisque la Constitution nous donne le droit de célébrer le culte, donc on n'a pas à avoir peur, on n'a rien à craindre.
Voilà. On a fermé des bâtiments, mais on ne peut pas fermer les cœurs, et c'est ce qui est important. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez participer à ce réveil. Le monde musulman est prêt aujourd'hui. Les fruits sont mûrs. Il suffit juste de toucher. Le fruit tombe dans votre main. Est-ce que nous voulons participer à ce beau réveil ? Amen. Voilà. Donc, vous pouvez, comme je l'ai dit, laisser vos coordonnées. Vous aurez des nouvelles et de tout ce que nous faisons. Et si ce ministère vous parle aussi, vous pouvez en faire partie en soutenant par la prière, même financièrement, si vous voulez bien. Merci et je suis béni aussi d'être avec vous pour cette journée. Merci beaucoup.